Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, trop de quarts de rouge et de demi de bière. Un Français sur cinq dépasse la consommation recommandée d'alcool. Avec des risques de cancer à la clé, une campagne d'information est lancée. Un écolo, un agriculteur, une navigatrice, un journaliste. C'est la liste potentiellement baroque de la majorité pour les élections européennes. Annoncée dans l'après-midi, elle va lancer la campagne et donner des indications sur la stratégie du président. Le macronisme, comment ça marche? Réponse dans 20 minutes, Nicolas.
Avec deux conseillers de l'ombre du président de la République, on n'a jamais entendu leur voix à la radio. Ils ont même théorisé le silence médiatique. Ismaël Emelien, David Amiel, invité du grand entretien de la matinale. Ils viendront nous parler de leur livre chez Fayard. Le progrès ne tombe pas du ciel. C'est un manifeste pour le progressisme. 01 45 24 7000 pour toutes vos questions.
Et dans ce journal, nous serons dans le nord de la Syrie, où les Kurdes réclament un tribunal international pour juger les crimes de Daesh. Dans la Sarthe, où les Arjo-Wiggins redoutent une liquidation. Aujourd'hui, un millier de salariés retiennent leur souffle. Dans les coffres-forts de Dieudonné, jugés pour fraude fiscale, une fraude à 1 million d'euros. Et avec un jeune éléphant aérien, c'est Dumbo par Tim Burton au cinéma cette semaine.
France Inter.
On est foutu, on boit trop en semaine ou le week-end. Un quart des Français lève suffisamment le coude pour menacer leur santé, selon les calculs de Santé publique France. On ne parle pas d'alcoolisme, Daniel Messager, mais de la consommation du quotidien qui dépasse vite les seuils recommandés.
Pas plus de 2 verres d'alcool par jour, pas plus de 10 par semaine et pas tous les jours. C'est en fonction de ces repères qu'a été étudiée la consommation des Français qui, pour un certain nombre, sont au-dessus. Par exemple, 19% boivent plus de 2 verres par jour et 24% sont au-delà de plusieurs de ces repères. Une consommation qui varie aussi selon la tranche d'âge. Si l'on considère une journée précise, les jeunes sont plus nombreux à boire plus de 2 verres. Leurs aînés, en revanche, boivent moins, mais tout au long de la semaine. Ces repères informent sur les seuils au-delà desquels il y a des risques de développer des maladies, en particulier des cancers, ce que beaucoup de Français ignorent encore. Michael Nassila, co-auteur de l'étude et président de la Société française d'alcoolologie.
Si on compare le tabac, tout le monde sait que le tabac est cancérigène. L'alcool, assez peu de personnes ont associé le risque cancer avec l'alcool. C'est un exemple type sur lequel il va falloir travailler. Il y a aussi autre chose, qu'il va falloir travailler contre les fausses croyances, que peut-être l'alcool serait protecteur de certaines pathologies, que le vin aurait un statut à part, etc. L'idée, c'est de bien comprendre que peut-être toute consommation d'alcool comporte un risque pour sa santé.
Ces données permettent de changer les représentations sur le produit alcool avec des repères précis, faciles à mémoriser, pour consommer si on le souhaite, mais en toute connaissance de cause.
Voilà, une campagne d'information démarre aujourd'hui au pays de l'anisette et de l'armagnac. L'alcool comme lubrifiant social, surtout pour les hommes et les jeunes, c'est à lire sur franceinter.fr.
Il est 8h03 et eux sabreront-ils le champagne pour fêter la constitution de leur liste?
Celle de la majorité pour les élections européennes dans 2 mois, dévoilées cet après-midi. Bonjour Karine Bécart.
Bonjour.
On sait déjà que c'est la ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau qui va mener cette liste, suivie par l'écologiste Pascal Canfin du WWF. Pour le reste, c'est assez hétéroclite.
Oui, c'est une liste très disparate et composée globalement de candidats que les électeurs ne connaissent pas. Marie-Pierre Vedrenne, par exemple, sera la très probable numéro 3 de cette liste. Elle est la directrice de la Maison de l'Europe à Rennes et c'est une adhérente au Modem. Rien à voir avec celui qui est annoncé pour être le 4e, Jérémy Desserre, le président des jeunes agriculteurs, qui ne sera sans doute pas toujours d'accord avec l'écologiste Pascal Canfin. Et puis au milieu de tout cela, il y a un ancien chroniqueur radio que nos auditeurs en revanche connaissent bien, Bernard Guetta, qui aurait lui obtenu la 8e place sur cette liste. En fait, la seule cohérence apparente, c'est la volonté d'afficher de vrais défenseurs de l'environnement, parce qu'au-delà de Pascal Canfin, vous le disiez, l'ancien directeur de WWF, il y aurait aussi la navigatrice Catherine Chabot en 9e position, la sénatrice Fabienne Keller, très mobilisée en Alsace sur ces questions, et l'ancien patron d'Europe Écologie Les Verts, Pascal Durand. Autrement dit, tout est fait pour tenter de capter l'électorat écologiste. En tout cas, on ne voit pas quels auraient pu être les choix de Nathalie Loiseau, la tête de liste. Sans surprise, tout a manifestement été décidé à l'Élysée.
Nathalie Loiseau qui a déjà défini dans le Figaro son premier objectif pour ces européennes, battre le Rassemblement National, premier parti de France au Parlement européen depuis les élections de 2014. Nathalie Loiseau qui n'a pas encore démissionné. Karine, le remaniement attendu va encore se faire attendre.
Oui, ce remaniement technique avait été initialement annoncé pour ce matin. Il a été décalé. Nathalie Loiseau a été priée d'aller cet après-midi à la séance des questions d'actualité à l'Assemblée. En fait, l'Élysée n'aurait toujours pas tranché le cas Benjamin Griveaux, le porte-parole qui souhaite sortir du gouvernement pour se lancer à l'assaut de Paris. Certains conseillers du président estiment qu'il le faut, sauf qu'ils n'auraient pas encore réussi à convaincre Emmanuel Macron, qui refuse que soient mélangés les deux scrutins municipal et européen.
Karine Bécard, merci. Macron, Merkel, Juncker, ça c'est le visage que l'Europe veut présenter au président chinois aujourd'hui pour canaliser ses appétits économiques. Xi Jinping, qui ne quitte plus l'Elysée, où il a parrainé une commande de 300 Airbus pour la Chine hier, valeur estimée 30 milliards d'euros. À Londres, c'est Waterloo pour Theresa May. De plus en plus, elle perd la main sur le Brexit. Ce sont les députés qui la reprennent. Une majorité s'est dégagée pour organiser des votes demain sur l'avenir du pays. Et trois ministres ont remis leur démission cette nuit. L'un d'entre eux reproche au gouvernement de jouer à la roulette avec la vie des Britanniques. L'Europe, enfin, ce matin, c'est la réforme des droits d'auteur, finalement adoptée dans la journée au Parlement de Strasbourg après 3 ans de négociations et une pression maximale des GAFA qui vont devoir payer pour les contenus qu'ils utilisent, les articles de presse notamment. Leur lobbying a dépassé tout ce qui se faisait jusqu'à présent, explique l'eurodéputé libéral Jean-Marie Cavada.
En 15 ans de mandat, je n'ai jamais vu ça. Une campagne d'influence, une campagne de dépenses d'argent extravagant de la part des GAFA, de mensonges, diffusion de fausses informations et de corruption, puisqu'ils ont payé beaucoup de gens pour aller notamment défiler dans les rues, notamment les jeunes, le week-end dernier, en Allemagne notamment, en leur promettant 300 euros, leurs frais, etc. Je n'ai jamais vu ça. Il faut dire qu'il y a une bonne raison. C'est que la création artistique européenne, son équivalent économique, son poids économique, c'est de 536 milliards d'euros chaque année. C'est 7 200 000 emplois. Alors je comprends qu'ils se comportent comme des terroristes Pac-Man, qu'ils veulent manger cet argent et qu'ils ne veulent pas payer. Wikipédia, noir sur blanc, c'est écrit dans le texte, n'est pas concerné. Il n'empêche que Wikipédia fait campagne contre le copyright avec l'argent de Mozilla, c'est-à-dire la fondation de Google. C'est quelque chose d'absolument ignoble. Nous ne voulons pas la mort des GAFA. Nous voulons qu'ils plient un genou pour respecter les lois qui ont cours en Europe.
La colère de Jean-Marie Cavada au micro de Johanna Ostein. Tout est calme au Mans ce matin. Le quartier de la mairie est bouclé par la police après les affrontements provoqués par des forains hier qui réclament de pouvoir continuer à travailler au centre-ville. On reste dans la Sarthe où les salariés d'Arjo-Wiggins ont bloqué la ligne TGV Paris-Bordeaux pendant 5 heures hier. Ils attendent un miracle pour sauver leur emploi. Ils sont 1 000 000 dans 3 usines de papier du département et de l'Aisne, suspendues à la décision du tribunal de commerce de Nanterre aujourd'hui. Aujourd'hui, la reprise annoncée par un groupe suédois était un mirage. Il n'a pas obtenu les fonds nécessaires. Les Arjo-Wiggins s'attendent donc au pire, Maxime Debs.
C'est un désastre social qui se prépare selon la CGT. La liquidation, on y va tout droit, comme le confirme l'avocat très médiatique des Arjo-Wiggins, Thomas Hollande. Depuis vendredi, plus aucun signe de vie de la part du repreneur potentiel norvégien. Cela fait tout de même 4 jours qu'il aurait dû apporter des garanties supplémentaires au dossier, mais sans réponse de sa part, les dés semblent jetés, à moins d'un miracle auquel plus grand monde ne croit. Les 560 salariés du site de BC ne s'attendent à rien aujourd'hui, sinon à une grosse désillusion. Eux qui avaient commencé à y croire à nouveau lorsque ce repreneur venu des fjords était sorti du bois il y a quelques semaines. Que d'espoir pour ça, que de temps perdu. Si cet après-midi la liquidation était effectivement prononcée, resterait certes la possibilité très hypothétique d'un plan B, que les salariés s'en remettent à eux-mêmes pour monter un projet de dernier recours, une SCOP par exemple, suggère leur avocat. Mais tout ça laisse quand même le sentiment d'un immense gâchis.
Et demain, ce sera le jour J pour les 280 salariés d'Ascoval. Eux ont 3 offres de reprise et le tribunal se prononcera donc sur ces offres demain. Le gasoil, plus cher que l'essence, dans une station service sur 5, c'est reparti comme à l'automne, mais sans atteindre les mêmes prix. On est à 1,46€ le litre en moyenne.
Il est 8h09, Florence. Comment juger les crimes de Daesh en Syrie?
C'est le moment de se poser la question maintenant que le groupe État islamique ne contrôle pour le plus de territoire. Les Kurdes qui ont vaincu les djihadistes au sol réclament la création d'un tribunal international spécial basé chez eux dans le nord-est de la Syrie où se trouve notre envoyé spécial Omar Waman.
La liste des crimes commis par le groupe État islamique est longue. Exécutions barbares, de masse, enlèvements, tortures, esclavage sexuel, viols aux raquettes. Durant plus de 4 ans, les djihadistes ont été sans pitié. Pour les Kurdes victorieux de Daesh, ces crimes relèvent de l'histoire et doivent être jugés sur leur territoire où sont détenus des milliers de terroristes. Adnan a perdu 11 membres de sa famille, mère, frère, sœur et cousin. Pour ce jeune professeur de Kobané, l'heure de la justice a sonné. J'ai éprouvé une joie intense après la défaite de Daesh. Je ne veux pas de vengeance, je ne veux pas de œil pour œil, dent pour dent, mais que la justice soit rendue ici, que ces gens soient jugés pour les crimes qu'ils ont commis, que les pays d'où ils sont originaires prennent la mesure du mal qu'ils nous ont fait, du cauchemar que nous avons vécu. Les Kurdes, en quête de légitimité internationale, avancent comme argument que la majorité des familles des victimes de Daesh se trouvent en Syrie et en Irak, tout comme les nombreux documents, témoins et preuves. Dans la région de Baghouz, Omar Waman, France Inter.
Au Brésil, on le savait, nostalgique de la dictature militaire, le président Jair Bolsonaro annonce des commémorations pour le 55e anniversaire du coup d'État de 64, début d'une dictature qui a duré plus de 20 ans.
Il a déjà été jugé pour incitation à la haine et pour antisémitisme. Dieudonné, de retour devant la justice aujourd'hui.
Et cette fois, il devra répondre de fraude fiscale et d'abus de biens sociaux soupçonnés. L'Aurélie Carif d'avoir dissimulé plus d'un million d'euros au fisc.
Il y a 5 ans, on se bouscule pour voir Dieudonné. Ces diverses condamnations et le bras de fer engagé avec le ministre de l'Intérieur Manuel Valls ont aiguisé la curiosité du public et attisé la ferveur des fans. Mais même s'il fait sale comble, Dieudonné apparaît ruiné et insolvable. Il ne s'acquitte pas de certaines amendes liées à ses condamnations. Sauf que des mouvements de fond ont éveillé l'attention de Tracfin, la cellule anti-blanchiment de Bercy. 565 000 euros envoyés sur des comptes à l'étranger, principalement au Cameroun, où Dieudonné a des attaches. Lors d'une perquisition chez lui, au Ménil-Simon, près de Dreux, les enquêteurs découvrent aussi plus de 650 000 euros en petites coupures dans des coffres forts. Dieudonné affirme qu'il s'agit là de la trésorerie récente de son spectacle Le Mur. Mais pour le juge d'instruction qui a décidé de le renvoyer devant le tribunal correctionnel, l'humoriste a bien cherché à dissimuler au fisc un patrimoine substantiel afin d'échapper à l'impôt sur la fortune. Il est aussi soupçonné d'avoir détourné les recettes de ses spectacles aux dépens de sa société et d'avoir organisé frauduleusement son insolvabilité.
Je suis partout, dans les champs, les arbres, les océans. Je me multiplie de 8 millions de tonnes par an. On ne sait pas comment se débarrasser de moi, Nicolas. Je suis.
Le plastique.
Auquel France Inter et Combini disent non merci demain, journée spéciale pour imaginer un monde sans plastique inutile. Il y a des idées partout dans le monde. Voici un petit florilège signé Léa Gage.
La première bataille à mener, c'est contre le plastique jetable. Une entreprise polonaise vend par exemple des assiettes comestibles en son de blé. Au lieu de la jeter en fin de repas, on peut manger son assiette. À Londres, des designers ont créé de l'eau en bulle. L'eau est enfermée dans un bulbe avec une membrane en algue marine et pour boire, on perce la bulle ou bien on la gobe. L'autre bataille, c'est le recyclage du plastique. Dans le désert du Sahara, un ancien réfugié construit des abris avec des bouteilles en plastique remplies de sable et de paille. C'est même plus résistant que l'argile. Au Sénégal, une société de recyclage rachète les poubelles de plastique pour quelques francs CFA. Et à Istanbul, on peut troquer ses bouteilles en plastique contre des tickets de métro. Et puis, il y a cette initiative qui dépasse les frontières. C'est le hashtag Trash Challenge, littéralement le défi poubelle, lancé par un militant écolo algérien sur Twitter. Le principe, on se prend en photo avant et après avoir nettoyé un endroit recouvert de plastique. Et ça, il faut bien le dire, ça ne manque pas.
Voilà, le plastique, les initiatives, les bonnes idées, cette journée spéciale demain sur France Inter, déjà sur franceinter.fr. Umtiti, Giroud, Mbappé, Griezmann, 4 buteurs, Nicolas, 4-0 hier soir pour les Bleus au Stade de France face à l'Islande. Facile ce début de campagne pour l'Euro 2020. La suite, ce sera la Turquie le 8 juin et la tête du groupe en cas de victoire. Enfin, c'est un lourd bébé aux grandes oreilles. L'éléphant Dumbo va vous faire rêver cette semaine au cinéma. Dumbo façon Tim Burton et Vabetan, qui a gardé son âme d'enfant, nous recommande ce classique revisité de Disney.
Le bébé, pas comme les autres, aux oreilles démesurées, fut-il un éléphanteau né dans un cirque, c'est tout bon pour Tim Burton. Qui d'autre que lui, avec tout de même un sourire, s'identifierait à Dumbo ?
Dumbo est le personnage qui m'a le plus touché émotionnellement. C'est après coup que j'ai compris pourquoi. Je me suis dit, mais c'est mon histoire. Un étrange personnage que les autres trouvent bizarre et dont ils se moquent. Donc Dumbo, c'est moi.
Ce n'est pas de l'animation, c'est un film avec des personnages, mais quand la trapéziste jouée par Eva Green vole sur le dos de Dumbo, ne le dites pas aux enfants, il y a trucage et images de synthèse.
Quand mon personnage vole sur Dumbo, c'est un espèce de taureau mécanique, comme les cow-boys dans les rodéos, qui est attaché à un bras en métal, qui s'élève dans les airs, et ça bouge comme ça, très brusquement. On se sent un peu nouille. Mais après, on redescend, ils vous montrent des images sur ordinateur. Évidemment, pas le produit final, qui est extraordinaire. Mais on dit, ouais, non, c'est crédible, ça va, j'ai pas l'air trop bête.
Tim Burton ne renverse pas la table avec un nouveau film très personnel comme d'autres en leur temps. Il propose un superbe divertissement. Il y ajoute certes sa patte, il est toujours du côté de la marge plutôt que de la norme, mais dans des limites auxquelles il adhère, un film Disney pour les familles.
Dumbo, l'éléphant qui vole au cinéma ce mercredi et Tim Burton chez Antoine Decaune à 16h dans Pop, c'est chic.
Mais très, merci Florence Paracuelos. On va faire la météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo, avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Et c'est couvert sur la moitié est, Marie-Pierre.
Et oui, toujours, Nicolas, à cause de cette dépression qui se situe sur l'Allemagne et qui ramène des nuages des Hauts-de-France en descendant sur la région parisienne jusqu'aux côtes varoises, la côte d'Azur à la Corse, avec toujours du vent très fort, des rafales à 100 km/h. Et puis ces nuages vont donner des averses orageuses encore ce matin sur les terres du sud-est, qui en ont bien besoin. Puis sur la moitié ouest, vous profiterez d'une matinée ensoleillée du Cotentin aux côtes du Languedoc-Roussillon grâce à l'anticyclone qui est positionné sur l'Irlande et l'ambiance est très fraîche ce matin.
Mais plus de soleil cet après-midi.
Oui, sur les régions du nord, du nord-est, les éclaircies seront de plus en plus belles et pratiquement sur toutes les régions, le soleil sera très généreux, excepté encore entre les Alpes-Maritimes et la Corse où quelques averses pourraient encore tomber avec toujours du vent, des rafales jusqu'à 100 km/h accompagnées d'une chute du mercure, pas plus de 14 à Bastia, 16 à Nîmes, 18 à Mandelieu-la-Napoule et sur les autres régions avec le vent nord-est, il fera encore frais aujourd'hui mais ça va remonter demain. 9 à Langres, 11 à Dunkerque et Saint-Dizier. Vous aurez 13 à Paris, à Granville, Clermont-Ferrand, Lyon, 16 à Bayonne et 17 à Narbonne.
Marie-Pierre Planchon, merci. 8h30.